Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier, le monter, le descendre et le monter. Au ding-ding oppressant de la clochette qui sonne, qui ressonne, qui résonne et qui ordonne. Pas une minute de répit, il faut croire que la patronne ne peut rien faire sans sa bonne. Un coup pour aller l'habiller, deux pour le petit déjeuner, c'est parti pour toute la journée. Pour les affaires à repasser, pour les chaussettes de monsieur, pour les chapeaux ou les cheveux. Pour finir un sourire pincé en guise de vague, merci madame, pense que ça suffit. Maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, modeste et discrète, serviable et zélée, en un mot parfaite. Maudite clochette. On peut dire que madame sait faire marcher une maison au doigt, à l'œil, à la baguette. Ici maintenant, pour un oui, pour un non, à tort ou à raison, elle fait sonner sa sonnette. Alors surtout, il faut se presser, ne pas traîner ni rêvasser, ne pas penser, ne pas penser. Ding ding, viens ici, va là-bas, ding ding, fais ceci, fais cela, ding ding, préparez-nous le repas. Ding ding, servez le thé au salon, ding ding, il nous faut du charbon, ding ding, faites les cuivres à fond. Ding ding, de la cave au grenier, du haut en bas, de l'escalier, des chambres aux cuisines, ding ding ding. Maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, mon corps et ma tête, jamais fatiguée, et rien ne m'arrête. Maudite clochette. Madame s'arrange bien souvent pour sucrer mon jour de congé, oublie de me le redonner. Quand je fais une course au marché, elle recompte la monnaie. Avant, après, on ne sait jamais. Et s'il manque une petite cuillère, on ne dit rien et l'on s'étonne. Mais c'est la bonne qu'on soupçonne. Comme elle a la fâcheuse manie de contrôler mes faits et gestes, qu'elle veut savoir tout est le reste. Cette garce surveille mes lectures, épluche mon maigre courrier, fouille ma chambre et mon passé. Mais je ne dis rien, je serre les dents, la m'humilier. Je ne suis personne qu'une domestique que l'on sonne. Maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, pauvre marionnette, tellement dévouée, patiente et honnête. Maudite clochette. Mais je sais bien qu'une nuit viendra, nuit de colère, nuit de cendre, ding ding, il me faudra descendre. Madame a tellement peur de l'orage, et comme monsieur est parti, faut que je lui tienne compagnie, que je redresse ses oreillers, que je lui porte un verre de lait, et plus vite que ça s'il vous plaît. Tu ne devrais pas parler comme ça, pauvre madame, saute dans ton lit, si vulnérable à ma folie. Tu viens de sonner une fois de trop, il faut que cesse cette torture, à coups de ciseaux de couture. Et je vois dans ton regard perdu qu'il n'y a que ça que tu comprennes, ton sang qui coule sur ma haine. Maudite clochette et maudit métier, sais-tu que je souhaite quand j'entends sonner te couper la tête et la faire rouler du haut de l'escalier, les mâchoires serrées sur ta chère clochette à jamais muette.
Voilà, c'est bien.
Ça va, on vient, on arrive.
Maudite clochette.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Vous écoutez les promesses de l'aube en ce mercredi 15 novembre et j'ai le plaisir d'accueillir en studio deux invités. Bienvenue Catherine Videlaine et Valérie Provost. Bienvenue, bonjour. Welcome back bonjour, aussi bonjour. Dans ce studio où, dans lequel vous étiez venue, et je le signalais en début d'émission, vous étiez mes dernières invitées avant la fermeture des locaux, avant le confinement, donc c'était en mars 2020, je pense. Et donc Valérie, toi tu es l'initiatrice, la tenancière, je ne sais, l'animatrice d'un lieu à Saint-Gilles qui s'appelle Pierre Papier Ciseaux, dans lequel tu réalises différentes activités, actions, rencontres. Et tu décris ce lieu assez joliment comme un tiers-lieu hybride, indépendant, où consulter, explorer, cheminer, créer, rencontrer, exposer. Et donc, c'est ce qui va se passer ces prochains jours, je pense, et la venue de Catherine Vidlaine pour présenter l'exposition Les Cinq Sœurs. Et donc, c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui, là, maintenant, avec vous deux. Bienvenue, en tout cas, et merci d'être venue. Valérie, est-ce que tu peux un peu nous raconter un peu plus mais peut-être l'histoire de ce lieu, ce que tu y fais réellement et comment ça se passe, et aussi ton histoire peut-être avec Catherine qui vient déjà pour la deuxième fois, si je ne me trompe pas, peut-être même plus.
La deuxième fois ici à Radio Panique, mais davantage de fois exposée chez Pierre Papier Ciseaux. Donc effectivement, Pierre Papier Ciseaux est un lieu que j'ai ouvert en 2019, donc ça fait maintenant un petit temps déjà. Qui est effectivement un tiers-lieu, c'est-à-dire c'est pas un lieu subsidié, c'est un lieu que j'occupe essentiellement avec une pratique art-thérapeutique pour ma part, pour les adultes, et aussi des activités créatives, récréatives, artistiques pour les enfants, en résumé. Mais j'y insère dès que possible des coups de cœur sous la forme effectivement d'expositions, de spectacles, souvent de conteurs, conteuses ou de conférences gesticulées, et d'expositions de temps en temps. Et en général, j'essaye de faire se croiser les genres, les gens, les personnes, les médias. Je trouve toujours intéressant d'à la fois ouvrir les portes sur une exposition qui parle d'une thématique qui peut mener à une forme d'engagement ou à de visibilisation, par exemple de vulnérabilité, mais aussi d'intégrer voilà des moments un peu différents, en tout cas d'aller au-delà d'une simple exposition, et peut-être comme maintenant, et on va vous en parler, d'intégrer aussi des ateliers participatifs, parfois un spectacle en lien avec une thématique.
Et donc c'est souvent aussi en lien avec les thématiques sont souvent en lien avec le travail des femmes aussi, et une certaine réflexion sur le rôle des femmes, le travail des femmes, comment elles peuvent s'articuler les unes avec les autres aussi. Et donc la thématique de ces prochains jours, c'est grand nettoyage. Et donc ça rappelle aussi le projet dont vous aviez parlé il y a 3 ans et demi, qui était un projet précédent de Catherine autour des éponges, mais donc aussi justement montrer le rôle des femmes dans nos sociétés, comment elles travaillent, et cette invisibilisation un peu de ce qui les touche au plus profond. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous meut toutes les deux, qui vous travaille en tout cas?
En fait, ma grande inspiratrice sur cette question-là, c'est Catherine Vidlaine. effectivement, il y a eu une première exposition sur la thématique du travail au féminin, qui était à ce moment-là une exposition collective à laquelle Catherine a participé. Et puis, avec ce confinement, ce premier confinement, tout a été mis un petit peu sur pause. Et l'année suivante, Catherine est revenue entourée d'autres artistes. Et c'est un grand sujet pour Catherine, donc je vais lui céder la parole sur cette thématique. Mais il est clair que si les expositions, les rencontres, travail au féminin ont existé, c'est inspiré par le travail de Catherine que je connais depuis très longtemps.
Et donc Catherine, comment vous avez développé cette pratique, cette réflexion sur justement les arts ménagers, comme vous l'indiquez.
Tout
aussi.
D'abord, bonjour à toutes et à tous. Voilà, depuis 10-15 ans, j'ai comme axe un fil conducteur dans mon travail artistique, pas uniquement, hein, mais bon, tout de même, il est assez récurrent, sur le travail domestique inter et extérieur au foyer. Donc, j'ai commencé ce travail par mettre de la lumière dans des cireuses, des aspirateurs, pour rendre visibles des tâches invisibles. Puis, ça a été poursuivi par un travail sur les carrières professionnelles au travers d'une éponge déclinée en 24 éponges, comme les 24 heures d'une journée. Et puis là, cette expo actuellement, les cinq sœurs sont plutôt liées à une histoire familiale. C'est-à-dire que cinq de mes grand-tantes, qui étaient donc les sœurs de mon grand-père maternel, qui sont nées entre 1871 et 1882, donc fin 19e, ont été toutes les cinq placées comme filles de ferme. Parce que mes arrière-grands-parents étaient pauvres, mon arrière-grand-mère était tisserande et mon arrière-grand-père était sabotier. Donc ça se passait dans les Pyrénées Atlantiques, c'est-à-dire dans le Béarn, parce que je suis française, d'origine donc des Pyrénées de ce côté-là. Mais je pense que c'est une histoire universelle. C'est surtout ça qui m'intéresse, parce que ces cinq filles qui ont été placées à l'époque, c'était vers 10-12 ans qu'elles étaient placées. Mon grand-père aussi a été placé comme domestique. Ont connu des vies difficiles. Et donc, j'ai eu envie de... En les voyant, enfin, je connaissais l'histoire, leur histoire par rapport à ma mère qui nous a laissé des écrits et qui nous racontait souvent leur vie parce qu'elle les avait appréciées et les bien connues. Je me suis emparée de ces cinq vies en me disant que, à travers elles, c'était toute une époque de vie qui avait, de femmes, fin 19e, début 20e, qui avaient envie de s'émanciper parce qu'elles ont eu des vies quand même assez extraordinaires pour l'époque. Donc, j'ai réfléchi, parce que moi je travaille toujours à travers des objets, la mémoire des objets, en me disant, qu'est-ce qui peut être comme support de réflexion pour des filles de ferme. Et j'ai pensé à la serpillière, parce que la serpillière, c'est un outil de travail qu'elles ont dû connaître, et même si ce sont des loques ou des appelés différemment, et une serpillière, c'est laissé en boule, c'est laissé dans un coin, et abandonné, maltraité. Et les filles de ferme, à l'époque... mais on peut retrouver ça maintenant dans certaines servitudes domestiques, étaient appelés des souillons en France. Et les souillons, c'était vraiment le bas de l'échelle. C'est-à-dire que c'était des filles qu'on considérait peu, c'était encore plus bas que les valets de ferme, qui n'étaient déjà pas vraiment très bien considérées. Et elles étaient des filles à tout faire, c'est-à-dire à la maison, comme dans les champs, les bêtes et tout. Elles dormaient parfois dans les étables ou à même le sol de la cuisine, bref. Donc je pense que mes grand-tantes ont eu des vies très difficiles, mais au travers elles, c'était tout ce genre de femmes, toutes les femmes qui ont des situations difficiles. Et donc de ces serpillières, j'ai décidé qu'elles étaient pauvres. Mon arrière-grand-mère tisserande n'avait pas dû leur tisser de linge. Et de ces serpillières, je leur ai fait leur linge de maison, parce que les filles de bonne famille partaient avec un trousseau, généralement, un trousseau avec brodé les draps, les serviettes, brodées à leurs initiales. Et elles, je pense qu'elles n'avaient rien. Donc, j'ai fait broder des serpillières avec leur monogramme. Et puis, il y a toute une histoire à travers cette serpillière qui est qu'est-ce qu'on fait du linge. Voilà. Surtout à cette époque, on y faisait attention. C'était pas du tout comme nous, de la consommation et de la surconsommation. Donc, on le réparait. Et donc, il y a des serpillières qui sont reprisées, qui sont réparées, comme réparer leur vie aussi. C'était un symbole de ça. Et réparer aussi ces serpillières pour qu'elles durent encore plus longtemps. Et donc tous les fils, tous les travaux de fil, le crochet, le tissage, le tricotage sont mis au service de la serpillière, donc au travail, du travail. C'était cette idée-là, voilà.
Et justement, pour revenir, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, et je pense que c'est important dans votre travail à toutes les deux, c'est la question de la sororité aussi et du fait de la transmission. Et donc, Valérie, quand tu disais toute ma réflexion, elle est inspirée par le travail de Catherine. Est-ce que, et vous qui parlez justement de la mémoire des objets, mais aussi de la nécessité de pouvoir se raccrocher à ces femmes qui nous ont précédées, sur Terre et à leur situation. Est-ce que c'est quelque chose que vous, auquel vous réfléchissez consciemment, enfin, de manière dirigée à l'un ou l'autre moment, soit dans votre travail, Catherine, soit Valérie, dans les activités que tu peux proposer, la façon de mener les ateliers que tu proposes?
Je pense que c'est une question qui est au cœur de Pierre Papé-Ciseaux, mais qui est là à la fois de manière consciente et de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers qui sont menés toujours en proposant des ateliers à ce stade en mixité, mais il se trouve que ce sont essentiellement des femmes qui viennent y participer. Il y a le contexte particulier de ce projet-ci, Grand Nettoyage, mais pour d'autres ateliers créatifs, artistiques, art-thérapeutiques, qu'il s'agisse de collages, de broderies collectives ou non, ce sont essentiellement des femmes qui viennent. Et en tout cas, moi je constate qu'il y a cette demande, ce besoin d'être ensemble, de faire ensemble, en parlant si on veut parler, en silence si on vit du silence, mais avec vraiment une présence, féminine, avec une idée, avec une transmission, sans objectif de résultat, mais juste être ensemble en fait. Et se porter l'une l'autre se raconter, parfois juste dans les gestes, de se raconter des morceaux d'histoire, ce qui est assez touchant.
Oui, moi je rajouterais juste que pour moi aussi, c'est une émancipation personnelle ne peut passer que par le collectif. Donc, moi par exemple, j'ai travaillé, maintenant je suis pensionnée, comme vous dites, mais bon, je continue des actions, mais différemment. Et je travaillais régulièrement auprès de femmes apprenant le français et travaillant dans l'espace public pour la place des femmes. Et je pense que, enfin moi j'ai un sentiment de sororité, je pense que c'est vraiment important parce que on revient un petit peu en arrière là. On est dans une période un petit peu difficile, même si il y a eu des progrès, c'est très très important.
Et justement, cette dimension passée de l'individuel au collectif, quand vous racontez l'histoire de vos ancêtres, effectivement, c'est chaque des chemins individuels, mais comment on passe au collectif, justement? Comment ça devient une histoire collective des femmes
Je pense qu'il y a déjà, dans l'exposition, quand des hommes et des femmes voient l'exposition, il y a un écho à certaines situations personnelles. J'en suis quasiment sûre. Et que ça dépasse, que les gens comprennent tout à fait que ça dépasse l'histoire de mes cinq tantes, de mes cinq grand-tantes. Et il y a aussi l'idée que ces cinq grand-tantes ont eu des vies assez exceptionnelles après, et que leur histoire est porteuse d'espérance aussi. C'est-à-dire qu'elles ont commencé une vie avec de grandes difficultés sociales, matérielles et autres, et qu'elles ont réussi à mener une vie qui leur était propre, et non pas que de servitude. Parce qu'après, elles, dans leur exemple, mais elles sont vraiment représentatives de cette époque, fin 19e, les filles de ferme, montaient à Paris pour devenir bonnes, pour pouvoir épouser un employé, un ouvrier, et avoir de meilleures, une meilleure situation. C'est ce qu'elles ont fait. Mais elles se sont pas contentées d'épouser des ouvriers et des employés. Deux ont épousé des fils de famille et donc sont devenues rentières. Deux ont eu des hôtels. et une autre à une vie un peu plus simple. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont réussi à tirer un profit de leur vie, et ça, je trouve que c'est très très positif, et que c'est, ça donne de l'espoir, mais c'est une réalité aussi, voilà. Donc moi, ça s'inscrit aussi dans cette envie de rompre cette servitude que beaucoup connaissent.
Et justement, est-ce que tout à l'heure vous évoquiez le fait qu'il y avait une certaine actualité là-dedans? Je me rappelle quand vous êtes venu, si je me trompe pas, il y avait aussi Camille qui était là pour présenter son travail photographique sur la Ligue des travailleuses domestiques. Donc c'est effectivement un autre contexte que celui des travailleuses domestiques sans papier dont elle traitait, mais ça rejoint aussi cette situation.
Oui, enfin pour moi tout à fait, oui. Alors je vois bien qu'en Belgique ou en France, il y a eu des actions et des mouvements syndicaux et voilà. Nous, on a une femme qui est devenue députée, qui s'appelle Raoul Keke, qui était une femme de chambre, ou d'une femme de ménage, je ne sais pas exactement, des Batignolles, ce qu'on appelle, parce que ça a été un... Et donc elle a été élue dans un parti LFI. Et maintenant, elle est représentante de ces femmes, de ces hommes qui ont des difficultés de vie énormes, papier ou sans papier. Alors sans papier, c'est encore pire, on va dire ça. Mais voilà, donc nous, on a quand même une représentante, même si c'est une, c'est quand même important. Je sais que parfois, elle vient en France soutenir, parce qu'elle est venue dernièrement, soutenir une action en France, en Belgique.
Tu voulais rajouter?
Oui, je voulais rajouter que je pense la question est identique, qu'il s'agisse de la Ligue des travailleuses domestiques ou d'autres associations qui peuvent soutenir et visibiliser le travail des femmes, mais aussi parfois des hommes, travail domestique. On fait la même chose, mais on prend un autre chemin. C'est-à-dire que le fait d'exposer ce travail crée déjà une forme de surprise. Je veux dire, exposer des serpillières, faut oser, hein. Faut reconnaître que c'est particulier. Ça crée une surprise et ça crée, voilà, une rencontre autour de cette question-là. Et on a aussi intégré dans ce projet des ateliers à destination, actuellement plutôt de femmes qui, dont c'est où ça a été la réalité, en fait. Le plus souvent, il s'agit de femmes migrantes. Et donc, voilà, je pense que dans le travail de Catherine, mais dans le mien aussi, il y a, en tout cas dans le mien très fortement, il y a un réel plaisir à proposer des activités, des expositions qui témoignent d'un engagement, mais avec une forme aussi de douceur. C'est-à-dire que des personnes peuvent entrer par hasard chez Père Pape et Ciseaux et découvrir l'exposition, le propos de Catherine et après les serpillières effectuées par ces femmes dans le cadre des ateliers et être touchées sans forcément avoir déjà été sensibilisées à cette question-là. Et voilà, c'est une de mes manières de travailler, je pense.
Et vous, Catherine, vous procédez aussi beaucoup, en tout cas par le biais d'ateliers, donc cette rencontre avec les femmes en situation, on va dire.
Alors, ça dépend des projets. Voilà. Généralement, je suis comme Valérie, je croise les différentes personnes sur un sujet. Des rencontres, des historiens, des professionnels. Voilà. J'ai fait un gros projet participatif pendant 5 ans sur la guerre de 14-18, qui était un projet complètement participatif sur les conflits, comment on fabrique un ennemi et comment naît un conflit. J'avais besoin, je pense, avec les 5 sœurs, de me retrouver un peu au cœur du projet. Voilà. Et donc, c'est parti d'un projet complètement personnel, les 5 sœurs. Et le fait, alors comme généralement, je fais toujours des ateliers aussi avec souvent des femmes migrantes. Valérie m'a proposé cette situation, ces possibilités. Et j'ai dit oui parce que ça me plaisait bien de faire rentrer de la participation dans ce projet une fois que je m'étais nourrie moi-même. Voilà, c'est pas un projet tout à fait participatif, mais tout de même. Et l'idée, c'est que les serpillières qui vont être faites ou qui ont été faites dans les ateliers qui ont déjà eu lieu ou qui vont encore avoir lieu à Pierre, Papier, Ciseaux, vont intégrer l'exposition, mon exposition, voilà, en témoignage de ce travail fait par des travailleurs et des travailleuses.
Et donc concrètement, grand nettoyage, les ateliers ont déjà commencé?
Oui, en fait, deux ateliers ont eu lieu, un avec en collaboration avec la Maison des Parents Solo et l'autre avec Vie Féminine. Et le troisième aura lieu en collaboration avec le CPS de Saint-Gilles. Et effectivement, je peux peut-être déjà donner quelques dates. En fait, le mardi 21 novembre, après-midi, de 14 à 17 heures, nous allons proposer un goûter vernissage de l'exposition qu'on a appelée exposition augmentée de Catherine. C'est-à-dire que l'exposition de Catherine est déjà là, elle est en place, elle a déjà été visitée par différentes personnes. Et nous allons, comme disait Catherine, intégrer les œuvres réalisées dans le cadre des ateliers à ce moment-là. Et on a choisi de faire deux moments de rencontre pour découvrir en fait les serpillières supplémentaires, à la fois un mardi après-midi, parce que c'est très important pour nous de nous adapter aussi à la réalité de ces familles, en fait. Proposer un vernissage un vendredi soir, ça n'a pas de sens par rapport à la vie des familles, de ces travailleuses. Et donc, il y a le mardi 21 de 14 à 17 heures et le mercredi soir à partir de 19 heures. Oui, c'est ça. À partir de 19 heures, est proposé un autre moment de découverte de cet ensemble dans lequel nous avons intégré un moment de partage, d'échange auquel participeront Catherine, mais aussi Aurélie Leroy du Cétri, dans le cadre de Féministe Toi-même, et puis des serpillères intégreront la journée de salon festif Féministe Toi-même à la Tour à Plomb le 25 novembre. Donc si vous voulez voir ces serpillères, il faut se dépêcher parce que le 26, elles repartent à Paris.
Mais donc ça laisse encore une bonne dizaine de jours.
Oui, et par ailleurs, Catherine et moi, nous sommes... faisons tout pour être disponibles si on nous contacte en nous disant aucune de ces dates ne rencontre nos possibilités. Est-ce que vous avez un autre moment? On est là.
Et donc, vous avez participé déjà à ces ateliers, Catherine, pour présenter justement votre projet?
Oui, ça a été... On a fait déjà deux ateliers qui ont été très... intense, avec des réalisations
variées,
étonnantes, fortes de sens, on va dire, fortes de sens. Et ces réalisations sont... Il y a un petit texte qui accompagne ces réalisations, de quelques lignes, où les personnes expliquent leurs propos, voilà. Et c'est souvent très touchant.
Et justement, enfin, on pourrait, par rapport à ce travail domestique, est-ce que vous voyez une évolution aussi dans la réception de votre travail ou ce que les personnes, les femmes avec lesquelles vous faites des ateliers ou que vous rencontrez, est-ce que ce qui est amené par ces femmes est différent, évolue ou malheureusement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ça va pas bien mieux.
Moi, je vois pas d'évolution, mais bon, c'est par petits sauts. Il y a 4 ans, la dernière fois, ou 3 ans avec le Covid, voilà. Entre temps, j'ai fait d'autres choses. Non, moi, je dirais que je vois pas d'évolution. Soyons, non, aucune. Mais moi, ce qui me touche, c'est que à travers une serpillière, à travers une éponge, des personnes qui n'ont absolument pas accès à de l'art contemporain, on peut parler de ça comme ça, eh bien, sont tout de suite touchées au cœur et se retrouvent. Et ça, je trouve ça très, très, très fort. Voilà.
Et c'est important dans votre pratique artistique, en tout cas, que ça touche les gens dans le plus largement possible.
Oui, parce que à partir du moment où c'est confiné à un petit public qui sont entre guillemets un public initié, hein, tout ça c'est entre guillemets. C'est pas tellement mon propos. Voilà. Je pense que j'ai un petit côté militant qui ressort et que je trouve ça plus intéressant de. Enfin, c'est bien d'avoir les deux publics, hein, faut pas non plus exagérer. Mais ça m'intéresse énormément, ces retours. Ça me nourrit aussi dans une réflexion artistique, mais aussi personnelle, hein, bien sûr.
Et toi, Valérie ?
Moi, j'aurais envie d'ajouter que, en fait, pour les personnes qui ont vu le travail de Catherine, qui s'intitule « Travail au féminin » et qui est constitué de ces 24 éponges customisées, je pense que ces personnes vont revenir voir les serpillères, parce qu'il y a une force dans ce travail qui, pour moi, est assez rare, c'est-à-dire à la fois être un travail engagé, qui peut tout à fait intéresser les personnes férues d'art contemporain, qui peuvent... en parler longuement et très justement, mais aussi des personnes qui peut-être ne sont jamais rentrées dans un musée et encore moins dans une galerie, et pour certaines n'ont jamais créé. Et donc être comme ça à la croisée de toutes ces vies, c'est très impressionnant à voir, mais c'est vraiment la réalité du travail de Catherine. Et donc pouvoir aussi rassembler autour de la table des femmes qui n'ont peut-être jamais créé d'œuvres, les inviter par un accompagnement évidemment adéquat, bienveillant, on prend le temps, etc. Tout ça est mine de rien, mais voilà. Les inviter à créer sur une serpillière, soit neuve, soit certes nettoyée, renettoyée, mais qui a été usagée, c'est quand même un challenge, mais en fait, c'est d'une simplicité incroyable, en fait. C'est un espace d'expression et comme disait Catherine, c'est extrêmement touchant. Et je pense effectivement que la situation de ce qu'on entend ne change pas. Peut-être bien qu'on en parle un petit peu plus et voilà, mais des situations doivent s'améliorer à certains endroits et s'aggraver à d'autres, très clairement. Mais ce qui est intéressant aussi avec ce genre de projet, c'est que ça peut aussi casser des stéréotypes par rapport au travail ménager, entendre une femme qui dit ben « Malgré tout, en fait, j'aime ce travail. J'aime, ça m'a permis d'avoir de l'argent, ça m'a permis d'offrir des études à mes enfants. Et puis moi, j'aime le travail. » Et d'autres qui, à côté, peuvent dire « Mais moi, j'ai quitté mon pays, j'étais prof d'université. » J'ai eu les mains bousillées parce que j'ai travaillé dans un garage comme femme ménagère. Donc, donc il y a des informations, il y a des choses qu'on sait qui sont là, d'autres qui sont plutôt qui peuvent nous étonner, et puis c'est aussi faire visibiliser le travail, mais aussi les personnalités de chacune, et ça c'est nettement plus juste aussi que de parler des femmes de ménage, mais avec toutes leurs histoires très différentes aussi, c'est important de le rappeler.
Et ce qui est important aussi, c'est que lors des ateliers, ça fonctionne très très bien. Un petit peu au début, une serpillière, on se pose des questions, mais tout le monde s'y met, enfin, avec plaisir et à la limite se découvre elle-même une possibilité de création, d'avoir réalisé quelque chose. Et ça, c'est quand même très très sympa.
Et c'est aussi permettre désacraliser un peu le fait d'avoir une pratique artistique créative, se dire ben même moi qui suis femme de ménage, je peux aussi créer, avoir de l'imagination et pouvoir transformer mon quotidien, ma réalité.
En animant, enfin on prend bien le temps de créer un cadre sécurisant, mais on casse nous-mêmes des stéréotypes en disant « Ne pensez pas que tous les artistes savent dessiner, en fait. Allez-y, il n'y a pas forcément d'objectif de résultat. On est là pour vous accompagner. Les idées, elles vont venir de vous-même ou en regardant le matériel. » Et ça, effectivement, enfin, il n'est pas rare, en tout cas dans l'animation des ateliers, que ce soit sur les serpillères ou sur d'autres supports qui peuvent être étonnants, que des personnes nous disent en fin d'atelier, oh, finalement je vais le faire avec mon enfant, finalement je vais m'y remettre, ça me fait du bien. Et il est clair qu'il y a, dans notre travail, même si on n'en parle pas beaucoup, mais dans ce projet Grand Nettoyage, il y a aussi pour ces femmes un moment de transformation de l'objet. Donc elles transforment la serpillière en objet, en support d'expression, de créativité personnelle, de choses qui sont parfois extrêmement dures. Et ça crée toujours un moment, un espace de soulagement en fait. Et de, j'ai pu me dire, on m'a entendu, c'est juste, je suis installée au cœur d'autres serpillères qui existent déjà, qui ont été créées par une artiste, et finalement ça raconte la même chose, mais j'ai transformé quelque chose. C'est pas ma réalité que j'ai transformée ou mon passé, mais je peux transformer quelque chose. Et ça, c'est assez fort. Les cinq grand-tantes de Catherine ont transformé aussi leur vie. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue en miroir à ce niveau-là.
Et moi, je voudrais rajouter sur la notion du beau, parce qu'on en a parlé beaucoup dans les ateliers. Cette notion du beau, est-ce qu'une serpillière, ce que j'expose, c'est beau? C'est pas évident, voilà. Donc, de casser cette notion de faire du beau, ce qui n'a pas de sens, c'est d'avoir de l'émotion, c'est de créer un univers, mais c'est la notion du beau en soi-même n'a pas de sens. Enfin, pour nous, hein, c'est voilà. C'est vraiment cette émotion et cette transmission qui passe.
Mais ça recadre aussi tout le rôle de l'art en tant que tel et justement cette conception, qu'est-ce qui est beau et où est-ce qu'on place l'intérêt entre guillemets de l'art? Est-ce que justement c'est de susciter cette émotion plutôt que...
Et puis de rendre aussi entre guillemets l'art près des gens. Enfin voilà, moi je suis beaucoup pour faire de l'art urbain parce que à l'extérieur, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas pousser une porte. Et donc, à l'extérieur, dans la ville, c'est accessible, voilà, c'est facile. Donc, pierre, papier, ciseaux permet ça aussi, ce côté accessible. On pousse la porte facilement, on vient avec des associations, on est... Voilà, ça pour moi, c'est très important. De ne pas sacraliser nécessairement tout le temps l'art.
Et ce travail avec les associations que tu peux faire, toi, c'est vraiment aussi au cœur de certains projets que tu mènes. C'est important de pouvoir donner, ouvrir cet espace, on va dire, à des organisations qui, des associations de femmes, justement, qui sont en demande d'avoir des partenariats avec des lieux comme le tien.
Oui, pour moi, c'est très important. C'est tellement important qu'en fait, Catherine et moi, sur ce projet, je veux dire, on le fait de manière bénévole et on a reçu, et ça, c'est important que je le souligne, un soutien de la commune de Saint-Gilles via Catherine Moranville, son échevine de l'égalité des chances et droits des femmes. Mais globalement, c'est un choix que nous faisons Catherine et moi. Alors c'est pas quelque chose qui est possible tout le temps. J'aimerais beaucoup que ce genre de projet puisse être pérenne chez Pierre Papier Ciseaux, mais de pouvoir avoir comme ça dans l'année un ou plusieurs moments où on se dit on le fait et on invite des associations qui ont des bénéficiaires à qui la thématique parle. On est ensemble, on crée, on discute, on boit un thé. Et voilà, on sème des petites graines comme ça. Pour moi, c'est assez c'est essentiel et c'est très nourrissant aussi.
Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que vous voudriez ajouter par rapport à ça.
Le choix de la première chanson, Maudite clochette. Parce que dans l'expo, dans mon expo, il y a une clochette. Voilà. Parce que pour moi, elle est juste posée sur un socle, hein, très, très simplement. Parce que pour moi, c'est vraiment un symbole de servitude absolue. Voilà. On ne parle même plus aux gens, on les sonne. Et ça, pour moi, c'est invraisemblable, voilà. Donc, merci Juliette, parce que c'est vraiment, voilà, avant on tirait des cordons, là c'est une clochette, c'est le même principe, sachant que dans certaines familles, par exemple, on va décider que toutes les cuisinières vont s'appeler Germaine, donc elles deviennent, on perd son identité, son prénom, puis par exemple un majordome, on va l'appeler Germain, parce que c'est plus simple, voilà. Et donc, ce sont des identités qui se confondent avec le travail, hein, et qui, elles s'effacent, et ça, je trouve ça vraiment important de le souligner.
Et ça me fait penser à l'actualité. Régulièrement, dans les médias, on entend justement des familles riches qui ont justement toujours ces domestiques, ces personnes qui sont là 24 heures sur 24 à leur disposition, dont on retire même le passeport parfois. Donc c'est clairement cet accaparement de l'identité et de l'être même des gens.
J'ai lu dernièrement un livre qui est paru en France, mais je pense qu'en Belgique aussi, au mois de juin, je crois qu'il est paru, qui s'appelle « Servir les ultra-riches » d'une sociologue qui s'appelle Élisée Delpierre. Et c'est fort intéressant parce qu'elle a interviewé des personnes qui emploient, des employeurs et des employés. Et donc, et là, voilà, on retrouve, c'est étonnant, enfin, c'est affligeant de, je sais pas comment dire,
d'indignité.
D'indignité, voilà, c'est ça, voilà. On n'imagine pas. Et c'est vraiment un livre qui est très intéressant. Alors, c'est les ultra-riches, hein, ou les aristocrates, ou les nouveaux riches qui ont du personnel, vraiment, comme vous dites, 24 heures sur 24. C'est pas seulement la personne qui a une femme de ménage qui vient 2 heures par semaine. On est dans autre chose. Et on se pose la question de est-ce que l'argent peut permettre tout ? Voilà. Et on a l'impression que parce qu'ils ont qu'ils se donnent un statut différent, ils se permettent tout.
Et donc c'était Clochette, Maudite Clochette de Juliette qu'on a entendu. Et Valérie, enfin je ne sais pas laquelle des deux, avait proposé aussi qu'on écoute un autre morceau.
Catherine avait proposé Santé de Stromae.
Ah voilà, Stromae qu'on n'écoute pas souvent dans les promesses de l'aube, mais je vais le passer. Est-ce qu'il y a d'autres dates que tu n'aurais pas évoquées, d'autres moments qui auront lieu cette prochaine semaine peut-être en dehors de...
Peut-être que je peux préciser que ce dimanche soir... à 19h30, j'ai invité 2 conteuses merveilleuses qui sont Christine Normand et Vi Indigaya, qui vont présenter leur spectacle qui s'intitule Autoportrait à la manière de Frida Kahlo. Et donc, le spectacle aura lieu au cœur de l'exposition. Donc, ça peut être une formidable raison pour venir découvrir l'exposition et rencontrer Catherine qui sera présente. C'est pas tout à fait un hasard, un petit peu un hasard d'agenda, je dois être honnête, mais ça me plaît beaucoup l'idée que ces deux artistes viennent conter ce soir-là au cœur de cette exposition, parce que leur conte, leur parole parle des corps et des corps écorchés. Et comme elles le disent, des corps écorchés qui s'érigent vers la liberté. Et dans l'exposition, mais à travers toute la question du travail domestique et tout le fil conducteur aussi du travail artistique et de l'engagement de Catherine, il y a un intérêt, un focus, je dirais, sur ce travail qui abîme les corps. Qui abîme le psychisme, les relations, ça c'est indéniable, mais aussi qui abîme les corps. Et on l'a déjà entendu, réentendu autour de la table lors des ateliers, les mains qui sont abîmées, les personnes qui peuvent difficilement se mouvoir, qui sont plus jeunes qu'il ne faudrait, avec une canne, enfin, c'est une réalité très visible, mais aussi invisible.
Et donc, ça, c'est dimanche. Malheureusement, je pense que c'est...
C'est complet. C'est... Mais une liste d'attente est ouverte. Et comme il s'agit d'un spectacle au chapeau, on sait bien que parfois, il y a des petits désistements qui sont plus rapides que d'autres. Et je compte bien sur la générosité des spectateurs et des spectatrices qui ne pourraient pas venir, qu'ils me contactent en me disant « Finalement, il y a des places de libre. » Donc, il faut essayer. Voilà.
Okay. Et Catherine, avant d'en terminer, est-ce que tu peux commenter aussi ton choix justement de santé, de
santé, ben de lever les verres, de lever son verre à tous ceux qui n'en ont pas, donc c'est-à-dire rendre hommage à tout, alors ce qu'on appelle, ce qu'on, non, pas nous, hein, mais ce que notre président de la République français a appelé les premiers de cordée, qui pendant le Covid, on s'est rendu compte, entre guillemets, mais on le savait avant pour certains, que, bah, c'était, que la société tournait beaucoup sur eux et qu'on devait leur rendre hommage. Bon, on devait les augmenter, ils ont eu un petit peu d'augmentation, mais parfois rien. Mais ça va aussi bien de l'éboueur à la personne qui travaille dans un EHPAD, en passant, enfin, tous ces métiers qui sont un peu méprisés, mal payés. Et voilà, lever son autre verre à eux, ça me semble bien.
Ok. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux, Valérie et Catherine. Bonne continuation dans ce projet et à tout bientôt. N'hésitez pas à revenir la prochaine fois.
Grand
et donc,
merci.
Merci. On écoute Santé de Stromae.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez, mieux vaut ne pas si. Frottez, frottez, si tu ne me connais pas. Brossez, brossez, tu pourras toujours te brosser. Brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Voilà, c'était donc Stromae avec Santé. Vous êtes toujours à l'écoute des Promesses de l'Aube.